VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 octobre 2021. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Soudan, les arrestations d'opposants au putsch sont poursuivies malgré de fortes pressions à l'étranger. Au Mali, le vice-président du Parlement de transition a été interpellé. Issa Kaoudjim est accusé d'avoir tenu des propos subversifs sur les réseaux sociaux. Au Nigeria, avec les enlèvements à répétition dans les établissements scolaires, 12 millions d'enfants ont peur d'aller à l'école, selon le président Buhari. Les États-Unis et la Chine toujours divisés à propos de Taïwan. Washington veut un rôle pour Taipei aux Nations Unies, une idée catégoriquement rejetée par Pékin. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Soudan, les forces de sécurité multiplient les arrestations de militants et de manifestants. Khartoum est quadrillé pour tenter d'en finir avec l'opposition au coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan. Le point avec Jacques Aristide.
L'armée a tenté de donner des gages en autorisant le retour chez lui hier du Premier ministre Abdallah Hamdok, détenu après le putsch lundi. L'un des leaders du plus grand parti du Soudan, la Houma, a été arrêté, de même que d'autres militants et manifestants qui bloquaient les principales avenues de Khartoum. La nuit dernière, les militaires ont tiré des grenades lacrymogènes sur les protestataires. Les militants appellent à une manifestation d'un million de personnes samedi pour réclamer la restitution du pouvoir aux civils. Le général Burhan a invoqué le danger de guerre civile née d'après lui d'une autre manifestation contre l'armée il y a une semaine. L'aéroport de Khartoum, encerclé par manifestants et forces de l'ordre, devait rouvrir dans l'après-midi, mais aucune compagnie ne s'est risquée à annoncer la reprise de ses vols. L'internet est toujours coupé. À l'étranger, l'Union africaine et la Banque mondiale ont fait monter la pression sur l'armée. La première a suspendu le Soudan de ses institutions et la seconde a interrompu son aide. Washington a déjà suspendu une aide de 700 millions de dollars et l'Union européenne a menacé de suivre.
L'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes, a rencontré ce mercredi l'homme fort du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan et le premier ministre limogé Abdallah Hamdok, qui n'est pas libre de ses mouvements, a indiqué le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Volker Perthes a réaffirmé les évolutions réclamées par l'ONU, à savoir un retour au processus de transition en vertu des documents constitutionnels et bien sûr une libération immédiate de tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés, a ajouté Stéphane Dujarric. Au Mali, un des vice-présidents du Conseil national de transition qui fait office de parlement de la transition, Issa Kaoudjim, a été interpellé mardi soir à Bamako. Il est accusé de tenir des propos subversifs. Abdourahmane Dia.
Selon une source judiciaire, Issa Kaoudjim a été interpellé sur ordre de la justice pour propos subversifs tenus sur les réseaux sociaux. Son avocat, Maître Kassoum Tapo, a confirmé l'interpellation et demandé la libération de son client qui, dit-il, est couvert par son immunité parlementaire. Pour Maître Tapo, l'arrestation de son client est une violation de la loi. Personnage connu de la scène politique malienne, Issa Kaoudjim est l'ex-porte-parole de l'imam Mahmoud Diko, leader politico-religieux qui a participé à la mobilisation ayant conduit à la chute de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Issa Kaoudjim est également connu pour son soutien au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et ses critiques acerbes contre le premier ministre Choguel Maïga. Il a récemment critiqué le chef du gouvernement malien après la décision du Mali de déclarer persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO au Mali.
Le Niger a reçu mercredi des mitrailleuses lourdes et des véhicules tout-terrain offerts par la France pour aider ce pays à combattre les groupes terroristes, a annoncé le ministère nigérien de la Défense. Le Niger bénéficie déjà du soutien logistique et en matière de formation de la France et des États-Unis qui ont installé des bases militaires. Le centre de commandement de la Task Force européenne Takuba, composé de troupes d'élite pour former des militaires au combat, sera par ailleurs prochainement installé à Niamey, la capitale. Au Nigeria, plus de 12 millions d'enfants traumatisés sont effrayés à l'idée d'aller à l'école où des gangs criminels kidnappent des élèves contre le versement de rançon, a déclaré le président Muhammadu Buhari. Les détails avec Jini Kapumu-Villa.
Plus de 12 millions d'enfants sont actuellement traumatisés et ont peur d'aller à l'école, en particulier les filles. Même quand ils sont libérés, le traumatisme reste longtemps dans leur esprit, a déclaré le président Muhammadu Buhari hier à une conférence sur la sécurité dans les écoles à Abuja. Des gangs lourdement armés sévissent depuis des années dans le nord-ouest et le centre du Nigeria, attaquant et pillant des villages et procédant à des enlèvements contre rançon, notamment dans les établissements scolaires. Depuis le début de l'année, ces groupes criminels, qui agissent a priori sans motivation idéologique, ont kidnappé plus de 1400 élèves selon l'UNICEF. Le premier enlèvement massif d'élèves remonte à avril 2014 lorsque le groupe Boko Haram a kidnappé 276 filles d'une école à Chibok dans le nord-est du pays.
Un groupe d'experts de l'ONU a appelé aujourd'hui le gouvernement centrafricain à mettre fin à toute relation avec les paramilitaires russes, en particulier le groupe privé de sécurité Wagner, accusé de harceler et d'intimider violemment des civils. Les forces centrafricaines épaulées notamment par des centaines de paramilitaires russes du groupe Wagner, selon l'ONU et la France, ont mené depuis le début de l'année une vaste contre-offensive contre des groupes rebelles. Moscou ne reconnaît officiellement que la présence de 1135 instructeurs non armés. Des accrochages entre groupes armés dans l'ouest de la Libye ont causé d'importants dégâts aux infrastructures de la principale raffinerie pétrolière du pays, a indiqué la Compagnie nationale de pétrole. Ces affrontements, qui ont duré de lundi soir à mardi matin, ont eu lieu autour du complexe pétrolier aux portes de la ville côtière de Zaïwa et qui comprend la seule raffinerie opérationnelle de Libye. Les autorités politiques n'ont fait aucun commentaire sur ces accrochages. La haute autorité de l'audiovisuel tunisien, AICA, a annoncé la fermeture de la chaîne de télévision privée Nesma TV, fondée par l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle, Nabil Karoui, actuellement en détention en Algérie pour entrée illégale. Nabil Karoui, candidat à la présidentielle en 2019, est également le chef du parti Kalb de Tunis, allié au mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, bête noire du président Kais Saied. L'université de Cambridge a remis aujourd'hui officiellement au Nigeria une sculpture de coq en bronze pillé il y a un siècle, devenant ainsi la première institution britannique à restituer un objet volé pendant la colonisation. La France tient ce mercredi une cérémonie au musée du Quai Branly à Paris pour la restitution au Bénin de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey. Le British Museum, en revanche, qui possède la plus grande collection de bronze au monde, ne s'est pas engagé dans cette voie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Chine a rejeté mercredi la proposition des États-Unis d'accorder à Taïwan une participation significative à l'ONU. Cette proposition intervient après les déclarations du président américain Joe Biden sur son engagement à défendre l'île d'une éventuelle attaque chinoise. Les précisions de John Lyndon.
Taïwan est un partenaire crucial des États-Unis et une réussite démocratique, a estimé mardi le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken sur fond de tensions avec Pékin autour du sort de l'île. Dans un communiqué, il a appelé le reste du monde à soutenir une participation significative et robuste de Taïwan dans le système de l'ONU, estimant que sa contribution était nécessaire pour faire face à un nombre sans précédent de défis mondiaux. Taïwan n'a aucun droit de participation à l'ONU, a retorqué mercredi à Pékin le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, rappelant que seuls des États souverains peuvent adhérer aux Nations Unies. La polémique entre les deux géants survient alors que le régime communiste vient de célébrer en fanfare le 50e anniversaire de son adhésion à l'ONU au détriment du gouvernement taïwanais qui occupait jusque-là le siège attribué à la Chine. De son côté, Taipei a remercié Washington pour son appel.
Israël a approuvé aujourd'hui la construction de plus de 3000 logements pour des colons en Cisjordanie occupée, a annoncé l'armée israélienne. Ces annonces surviennent au lendemain d'une déclaration critique de la diplomatie américaine envers la politique israélienne de construction dans les colonies, Washington se disant profondément préoccupée. Il s'agit d'une des positions les plus fermes prises par les États-Unis à l'égard de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison-Blanche. Les négociations sur le programme nucléaire de l'Iran reprendront d'ici fin novembre, a annoncé mercredi le principal négociateur de Téhéran, Ali Bagheri Kani, après une rencontre à Bruxelles avec le coordonnateur européen. Téhéran, qui a toujours démenti vouloir développer une arme nucléaire, s'est progressivement affranchi des limites fixées par l'accord de Vienne qui encadrait ses activités nucléaires après sa dénonciation et le rétablissement des sanctions américaines en 2018. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, souhaite relancer l'accord de 2015, mais Washington et Téhéran divergent sur les étapes à mettre en place et sur le calendrier de leur mise en œuvre. Les démocrates américains ont engagé une course contre la montre au Congrès pour trouver un accord sur les plans d'investissement de Joe Biden avant son départ pour le G20 et la COP26 en Europe et ont donc moins de 24 heures pour s'entendre. Le président américain espère en effet pouvoir présenter à ses partenaires internationaux l'image des États-Unis engagés dans la transition énergétique, la croissance, mais aussi la lutte contre les inégalités sociales et l'évasion fiscale. Présent la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a lancé hier la production de voitures hybrides à l'usine Toyota de Durban. Le président sud-africain a déclaré que c'est une étape importante de la transformation de l'industrie automobile plus respectueuse de l'environnement. Le constructeur japonais Toyota a investi 186 millions de dollars dans cette usine. La Banque mondiale a annoncé avoir suspendu aujourd'hui son aide en faveur du Soudan après le renversement du gouvernement civil par les militaires. L'institution de Bretton Woods a suspendu tous les décaissements et a cessé de traiter toute nouvelle opération. Avant le coup d'État, le Soudan s'était engagé dans un programme de réforme économique qui avait ouvert la voie à l'apurement des arriérés du pays alors qu'il devenait éligible à l'allègement de la dette. La directrice générale du FMI a exhorté ce mercredi le G20 à accélérer la mise en œuvre du cadre commun destiné à restructurer la dette des pays les plus pauvres. Des créanciers privés, en particulier chinois, freinent aujourd'hui sa mise en œuvre. Au début de la pandémie, les pays riches du G20 avaient offert aux pays pauvres un moratoire sur le paiement de leurs dettes qui a été prolongé jusqu'à la fin 2021.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. La NBA se poursuit avec des débuts tonitruants pour les Warriors. Invaincu, Golden State a remporté à Oklahoma City un quatrième succès d'affilée 106-98. Il fallait remonter à 6 ans lorsqu'ils avaient réalisé la meilleure saison régulière de l'histoire de la Ligue. 73 victoires et 9 défaites. Pour trouver pareil début des Warriors, à l'époque, ils avaient remporté 24 succès de rang. Golden State demeure donc en tête à l'ouest devant Utah, l'autre équipe encore invaincue de la conférence, qui a enchaîné avec une troisième victoire contre Denver, 122-110. Les Lakers ont souffert mais ont eu le dernier mot chez les Spurs. Après prolongation 125-121, à New York, les Knicks se sont offerts les Sixers du Camerounais Joel Embiid, 112-99. Les Mavs ont vaincu les Rockets, 116-106. Toujours ici, aux États-Unis, mais cette fois-ci en football féminin, Carly Lloyd met fin à sa carrière internationale. L'une des plus grandes joueuses de foot de l'histoire a fait ses adieux à la sélection à 39 ans. Hier, lors de la victoire 6-0 des États-Unis sur la Corée du Sud, un match amical à l'Alliance Field de Saint-Paul dans le Minnesota, Lloyd, double championne du monde et deux fois médaillée d'or olympique avec les États-Unis, compte 134 buts en 316 sélections. Elle fit ses débuts en sélection lors d'un match contre l'Ukraine le 10 juillet 2005. Joueuse FIFA de l'année à deux reprises en 2015 et 2016, elle a marqué les buts gagnants lors des finales des Jeux Olympiques de 2008, lorsque les États-Unis ont battu le Brésil, et de 2012, son doublé assurant le sacre aux dépens du Japon. Ce fut un honneur de pratiquer ce beau sport. J'espère que vous savez que j'ai donné tout ce que j'avais pour chacun d'entre vous, a déclaré Carly Lloyd. Un cri de cœur à présent, celui du président de la FIFA, Gianni Infantino, à propos des sportifs afghans. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour aider les athlètes afghans à être relogés dans des pays tiers après le retour au pouvoir des talibans en août en Afghanistan, a déclaré le président de la FIFA lors d'une visite à Doha au Qatar. Plus de 150 athlètes afghans, parmi lesquels 50 footballeuses, ont été évacuées courant octobre vers le Qatar avec leurs familles en coordination avec la FIFA. Mais des centaines d'athlètes se trouvent toujours en Afghanistan et demandent à partir. Gianni Infantino.
If Canada, Si le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, cinq grands pays qui accueilleront dans les deux prochaines années afin que les deux prochaines éditions, après la Coupe du Monde du Qatar et la Coupe du Monde masculine et féminine, et s'ils pouvaient nous donner un signal et accueillir certaines de ces filles, je pense que ça enverrait un message fort de solidarité et d'unité que seul le football est capable de transmettre.
Gianni Infantino, président de la FIFA.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, la population de la province de l'Ogone oriental ne bénéficie pas des retombées du pétrole tiré du sous-sol de cette partie du pays depuis 2003. Selon ses habitants, l'argent du pétrole profite à d'autres provinces et la ville de Douba se débat toujours dans ses propres difficultés, alors que 5% des revenus pétroliers devraient servir au développement de la zone productrice. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Le Tchad est devenu producteur de pétrole depuis octobre 2003, mais la ville de Douba, chef-lieu de la province du Logone oriental, située au sud du Tchad, d'où jaillit cette manne, est citée parmi les provinces les plus pauvres du pays. 5% des revenus pétroliers alloués au développement communautaire n'ont servi à rien, estiment quelques habitants. Une goutte d'eau dans un océan de problèmes.
L'histoire de 5% là, il y a bien aussi des natifs du Logone oriental qui ont pris des crédits pour rembourser, hein. Mais ils disent que non, ça c'est leur pétrole, donc ils prennent, ils bouffent. Et personne ne les reproche. Ils sont devenus des intouchables.
Vous voyez, vous-même, le courant a coulé depuis 2003. Il y a seulement que l'unique goudron ici à Douba. Est-ce qu'un jour, cette ville de Douba va changer encore?
Il y a un manque d'eau.
L'électricité, c'est rare. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'électricité dans ce secteur, mais dans notre quartier, non.
Si aujourd'hui, on est dans le noir, c'est que c'est les natifs eux-mêmes qui sont à l'origine de tout ça. Qui même là, amasse ces choses à sa guise et je mange, tant pis pour les autres.
Le vice-président du projet 5% des revenus pétroliers alloués à la zone productrice, Baïgoto Irénée, n'est pas de cet avis.
Ça dépend de ce que les gens disent, mais abandonné par les profs aussi, je n'adhère pas. Est-ce que les décideurs sont les enfants du Logone oriental et qui n'ont pas construit? Je crois que c'est pour un état. Si le gouvernement décide de faire un projet, est-ce qu'il y a un enfant de Douba qui s'en est opposé? Moi, je pense que c'est un faux Douba.
Pour lui, les 5% sont des ressources additionnelles qui ne peuvent pas couvrir tout le besoin de la population du Logone oriental.
Douba, c'est la plus grande province du Tchad, avec 23 sous-préfectures, 52 cantons. S'il faut évaluer tout ce qui a été fait, je crois que le bilan est très mitigé. Deuxièmement, est-ce que depuis la création jusqu'à aujourd'hui des 5% par rapport à l'argent du pétrole, là, combien ont été mobilisés? Parce que c'est d'abord là la question. Il y a plus de 4 milliards de crédits qui ont été placés pour lesquels sont partis carrément comme des fonds perdus. On s'est rendu compte que ceux qui ont pris sont devenus plus pauvres au statut d'avant tout ça. Et il y a également des infrastructures qui ne devraient pas être réalisées sur les 5% de revenus pétroliers.
S'agissant des infrastructures sportives, les jeunes dénoncent les conditions dans lesquelles ils s'exercent pour représenter la province et une compétition nationale.
Regardez vous-même, ils ont fait seulement que les gazons, mais c'est pas bien. On se blesse par-ci, par-là déjà. Notre piste même, regardez, piste pour les athlètes.
Les pistes ne sont pas praticables. Le fait de pratiquer l'e-sport même, c'est un peu difficile. On n'a pas les matériels sportifs.
Baïdo Dumbiyonan Piro, directeur du stade, estime que la construction de ce stade ne respecte pas les normes d'un stade moderne.
Dans quel pays du monde vous allez trouver un stade orienté dans le sens est-ouest? Il n'y en a pas. Vous prenez notre piste. Une piste normale fait 400 mètres. Notre fait 417 mètres. Un stade qui fait le sens SOS. On ne peut abriter un match international qu'en nocturne. Mais les projecteurs ne sont jamais allumés. C'est marrant, mais qu'est-ce qu'on peut dire?
À entendre les gestionnaires du stade moderne de Douba, construit en 2008, dont le coût global est estimé à près de 3 milliards de francs CFA, avec une capacité de 12 000 places, ne reçoit pas le crédit de fonctionnement depuis 2015. André Kodmajingar, de retour de Douba pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena. C'est 93.1 FM au Tchad.
Au Gabon, à trois jours de l'ouverture de la COP26 sur le climat prévu à Glasgow en Écosse, la société civile du bassin Congo se mobilise pour exiger le respect des engagements financiers pour la préservation des forêts du Sud. Selon elle, les promesses d'aide formulées par les pays industrialisés depuis la conférence de Paris sont encore loin d'être matérialisées. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nze, a eu un entretien avec Nikez Moulombi, le président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique.
Nous lançons un appel à la fois au secrétaire général des Nations Unies, au président de la Commission de l'Union africaine, pour qu'un fonds de soutien soit mis en place au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour dédommager, mais surtout qu'il puisse envoyer, en ce qui les concerne, un envoyé spécial sur ces questions pour se rendre compte de cette gravité. Et il faut réouvrir les discussions sur la vente du carbone.
Alors, il y a comme une injustice climatique que vous dénoncez. On se rappelle, Camille, qu'il y a quelques mois déjà, le fonds norvégien avait annoncé le décaissement de plusieurs millions de francs CFA en faveur du Gabon. Est-ce que ce n'est pas déjà un clé d'œil qui a été fait, par exemple, à l'un des pays du bassin du Congo, qu'est le Gabon?
Je vous assure que les fonds norvégiens, c'est bien, mais ce sont des effets d'annonce. Quand vous voyez, prenons le cas du Gabon. Personnellement, on commence par le président Omar Bongo Ondimba, création de 11 parcs nationaux, qui a été consolidé par l'engagement personnel du président Ali Bongo. Où est l'argent de la communauté internationale? Allez-y, visitez nos lois de finances pour vous rendre compte que ce n'est pas suffisant. Donc il y a besoin de
fonds disponibles ou pas encore disponibles?
Les fonds sont disponibles. Un, les conditionnalités au niveau du Fonds mondial climat sont telles que les pays en développement et en voie de développement ne peuvent pas les accéder. Et si vous voulez accéder, vous êtes obligé de faire encore recours aux experts des pays du Nord. Et donc ça ne sert que à eux-mêmes. Et quand ils mettent de l'argent, ils mettent des conditions qui leur permettent d'être toujours au centre de cette problématique. D'où l'intérêt pour nous de demander au secrétaire général de mettre un plan Marshall pour les forêts du bassin du Congo.
Le Gabon est par exemple le chef de file de cette conférence qui va se dérouler à Glasgow dans quelques jours, mais en arrière-plan, il y a la société civile. Pourquoi vous n'y êtes pas?
Mais nous ne sommes pas parce que le Gabon ne comprend pas que l'intérêt est d'avoir mis des outils comme le Conseil économique et social où la société civile est présente, avoir mis des outils comme la plateforme multi-acteurs au niveau de la transparence des ressources extractives, mais au-delà du Gabon, elle pense qu'elle peut continuer à faire sa diplomatie toute seule. Aujourd'hui, elle a besoin d'avoir une diplomatie soutenue par la société civile. Et en tant que président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte, parlant pour les 11 pays, je lance un appel aux chefs d'État de 11 pays d'intégrer leur société civile.
Nikez Moulombi, président du réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Madagascar est connu pour sa faune riche et diversifiée, mais les experts affirment que la dégradation de ses forêts est une menace croissante pour les animaux et les humains. Anne Nzouanke s'est rendue dans la forêt de Tsitsongambarik à Madagascar, où les efforts de reboisement ont mené à des résultats visibles. Le récit est de Dili Diko.
L'année dernière, cette cascade de Tsitsongambarika a disparu pendant 6 mois car de nombreux cours d'eau de la forêt se sont asséchés. L'État, avec l'aide de la population locale, a lancé un programme de reboisement. Écoutons Ange Chambou, un fermier qui participe à l'initiative.
Nous utilisons cette source d'eau pour nos fermes. Je suis fier de contribuer au reboisement de cette forêt, source de vie. Nos enfants n'auront pas les mêmes problèmes environnementaux que nous.
Le sud de Madagascar souffre depuis 4 ans d'une sécheresse qui, selon le Programme alimentaire mondial, est la pire depuis 40 ans. Le pays a également perdu près de 40% de ses forêts naturelles. Les militants écologistes pointent du doigt le changement climatique, mais aussi la coupe d'arbres par les populations locales. La forêt de Tsitsongambarika est un modèle de reboisement dans le pays. Elle a été reconstituée à plus de 60%. 39 000 hectares ont été restaurés sur une superficie totale de 59 000 hectares. C'est une zone de conservation importante protégeant de nombreuses espèces endémiques et menacées. La ministre de l'Environnement malgache, Bahinala Raha Rini Rina, nous en dit plus.
Elle contribue surtout à l'atténuation du changement climatique au niveau mondial. La forêt de Tsitsongambarika est un puits de carbone au niveau mondial dans un contexte où les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importantes au niveau mondial. Madagascar contribue donc à cet objectif mondial.
Selon les données tirées du Global Carbon Project, Madagascar produit moins d'1% de tout le dioxyde de carbone généré dans le monde. Les chercheurs disent qu'environ 5% des espèces animales et végétales du monde vivent sur l'île. Le président malgache appelle chacun à faire sa part.
Ce que nous demandons, c'est que les pays qui polluent le plus doivent aider les pays qui polluent le moins, afin qu'on puisse vraiment, à mon avis, pallier à l'impact de ce changement climatique et venir en aide à la population dans cette partie de l'île.
Lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique, les États ont pour objectif de trouver un accord pour limiter le réchauffement climatique afin d'éviter d'autres crises comme les sécheresses qui ont menacé les forêts de Madagascar.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition soudanaise mise à mal par le bras de fer entre civils et militaires. Ces derniers ont arrêté lundi le premier ministre Abdallah Hamdok et plusieurs membres du gouvernement après des mois de crise interne dans la conduite de la transition. Ce coup de force a provoqué des manifestations à Khartoum et suscité l'inquiétude de la communauté internationale. Quelles conséquences pour le Soudan et la région? Comment assurer une bonne cohabitation entre civils et militaires dans la transition? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
La fête d'Halloween sera célébrée ce dimanche ici aux États-Unis et qui dit Halloween dit citrouille. Le volumineux fruit de forme ronde et de couleur orange est notamment utilisé comme décoration le soir de la fête. À l'approche d'Halloween, une visite dans un champ de citrouilles s'impose. Petite virée avec Titi Tran dans le comté d'Orange en Californie. Le récit est signé Jacques Aristide.
Du jaune orangé ou de l'orange carrément, ce sont les couleurs qui dominent en octobre. Et pour cause, les citrouilles sont partout, comme dans le parc régional d'Irvine, dans le comté d'Orange, en Californie. La citrouille est la grande vedette d'Halloween, une fête toujours célébrée le 31 octobre. À l'image de tant de traditions américaines, ses origines peuvent être attribuées à une communauté d'immigrants, dans ce cas, les Irlandais. À l'origine, bien avant les citrouilles, les Irlandais sculptaient des visages effrayants dans des navets pour éloigner les mauvais esprits. Établis en Amérique, ils ont fini par remplacer le navet par la citrouille. Gemma, une petite fille qui habite dans le comté d'Orange.
Sais-tu qu'à l'école, on apprend tout sur les citrouilles? Elles peuvent être bleues, oranges, rouges ou blanches.
Le comté d'Orange est la définition même du creuset culturel américain. Près de 70% de ses 3,18 millions d'habitants sont nés en dehors des États-Unis. On y parle de nombreuses langues, l'anglais, l'espagnol, le mandarin, le pashto, l'hindi, le coréen et le vietnamien. Le comté abrite l'une des plus importantes communautés vietnamiennes. Une habitante d'origine vietnamienne.
Nous sommes venus ici l'année dernière, mais il y avait moins de monde que cette année.
Les enfants aident leurs parents à choisir des citrouilles à sculpter à la maison. Halloween, ce sont des déguisements drôles qui font peur, des jeux, des citrouilles transformées en lanternes, et c'est surtout la chasse aux friandises. Akash Patel, un habitant d'Anaheim.
Il y a des citrouilles partout, dans le train, dans de la nourriture, à peu près partout.
Chaque année, un concours de la plus grosse citrouille a lieu dans le comté d'Orange pour les agriculteurs du sud de la Californie. Le mois dernier, l'un d'eux a décroché le premier prix de 3 250 $ avec sa citrouille de 695 kilos. Mais rien à comparer avec le championnat mondial de la citrouille géante 2 semaines plus tard. Lors de l'événement à Half Moon Bay dans la ville de San Francisco, le premier prix de 19 719 $ est allé à un cultivateur de l'État de Washington pour sa citrouille, tenez-vous bien, de 994 kilos. Citrouille géante en effet. De retour au parc régional d'Irvine, il est temps de cueillir une citrouille qu'il va falloir creuser, vider puis décorer, car à la tombée de la nuit le 31 octobre, tout le monde a besoin de ces visages effrayants pour éloigner les mauvais esprits.
Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.